Seigneur, nous voulons vivre par ta parole. Mais nos esprits sont encombrés de toutes sortes de choses, du bruit du monde, du bruit de nos vies. Alors Seigneur, fais silence en nous pour que maintenant ta parole prenne vraiment toute la place dans nos vies. Amen. Voilà, donc j'ai retenu les trois textes prévus pour aujourd'hui. On va les lire dans l'ordre chronologique, dans l'ordre de la Bible. Alors tout d'abord dans l'Ancien Testament, le livre de Jérémie, au chapitre 38. À partir du premier verset. Hein. Donc Jérémie, chapitre 38. Shephatia, fils de Matan, Guédalia, fils de Pachour, Youkal, fils de Shélémia et Pachour, fils de Malkia, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant « Ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens gardera la vie, sa vie sera son butin, et il vivra. » Ainsi parle l'Éternel, cette ville sera vraiment livrée aux mains de l'armée du roi de Babylone, qui la prendra. Les ministres dirent au roi que cet homme soit mis à mort, car c'est lui qui décourage les hommes de guerre restant dans cette ville, ainsi que tout le peuple, en leur tenant de tels discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, mais son malheur. Le roi Sédécias répondit, « Le voici. Il est entre vos mains, car le roi ne peut rien en ce qui vous concerne. » Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkiyahou, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de garde. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Ebed-Melech, l'Éthiopien, chambellan, qui était dans le palais du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi siégeait à la porte de Benjamin. Ebed-Melech sortit du palais du roi et parla au roi en ces termes. « Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en tout ce qu'ils ont fait au prophète Jérémie en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim sur place, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Le roi donna cet ordre à Ebed-Melech, l'Éthiopien. « Prends sous tes ordres ici 30 hommes et tu feras remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. » Voilà, on va s'arrêter là, pour Jérémie. Ensuite, nous passons à l'évangile de Luc, au chapitre 12, donc Luc 12, et nous lirons des versets 49 à 53. Ce sont des paroles de Jésus, bien sûr. « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien je suis pressé qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre ? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais cinq dans une maison seront divisés, trois contre deux et deux contre trois, père contre fils et fils contre père, mère contre fille et fille contre mère, belle-mère contre belle-fille et belle-fille contre belle-mère. Et nous terminons nos lectures avec l'Épître aux Hébreux, également le chapitre 12. Donc Hébreux 12, à partir du verset 49. Non, 49, c'était Luc. Hein. Hébreux 12, premier verset. On va lire de 1 jusqu'à 4. Hein. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. On va reprendre un petit peu chacun de ces textes qui a priori n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres, mais à la méditation on peut trouver un fil conducteur qui me semble intéressant. Alors je voudrais partager avec vous ces quelques réflexions. Alors nous avons d'abord lu dans Jérémie cette mésaventure de Jérémie jeté dans une citerne. Quand j'ai lu ce texte, immédiatement une autre histoire m'est venue à l'idée. On peut faire un rapprochement étrangement similaire avec l'histoire de Joseph. C'est passé quelques 6 ou 7 siècles avant. Vous connaissez l'histoire de Joseph. J'aurais pu lire le texte, je ne vais pas vous faire l'affront, vous connaissez par cœur. Joseph qui lui aussi a été jeté, alors pas dans une citerne, dans un puits, enfin un petit peu la même chose. Hein. Il semblerait que dans ce pays, ce soit une habitude, dès que quelqu'un dérange, on le flanque au fond d'un puits ou d'une citerne. Donc, il y a plusieurs points qui rassemblent ces deux textes. Donc, d'abord, c'est la similitude de l'exécution, donc jeté au fond d'un puits, mais il y a également la motivation. Tous les deux se font punir, éliminer, à cause de ce qu'ils disent, qui ne plaît pas, visiblement. Rappelez-vous, Joseph, alors Joseph, c'est vrai qu'il y allait un peu fort quand même, il venait raconter la bouche en cœur à ses frères qu'il avait eu des visions, et que sa vision, pour faire court, c'était que, grosso modo, ses frères s'inclinaient, se prosternaient devant lui. Alors comme en plus il était déjà le petit chouchou du papa, ça passait mal. Donc ce qu'il disait ne plaisait pas, hop, au fond du puits. Et puis Jérémie, même chose. Enfin, sauf que là, c'est peut-être un peu plus sérieux, parce que Jérémie rapporte, non pas comme ça, un petit songe, il rapporte la parole de Dieu. Évidemment, en temps de guerre, quelqu'un qui vient claironner à la population, et surtout à l'armée, rendez-vous, abandonnez la ville, si vous voulez avoir la vie sauve, mais enfin bon, ça c'est... Rendez-vous, c'est fichu, l'ennemi va gagner la guerre. C'est un défaitiste, n'est-ce pas ? Il sape le moral des troupes. Alors, même chose, hop, au fond de la citerne. Il y a peut-être aussi un troisième point qui rapproche ces deux textes, enfin ces deux histoires, celle de Joseph et celle de Jérémie. C'est le fait que tous deux sont, me semble-t-il, une préfiguration de Jésus-Christ. Pour Joseph, c'est un peu un lieu commun. On sait que l'histoire de Joseph, vendu par ses frères, qui plus tard va finalement sauver ses frères de la famine. C'est, bon, vous voyez, l'allusion, elle est claire. On cite souvent l'histoire de Joseph comme effectivement une préfiguration de la mission du Christ. Mais Jérémie, c'est peut-être moins habituel. Pourtant, regardez bien ce qui se passe. Il apporte la parole de Dieu, et cette parole ne plaît pas, et on le liquide, on le supprime. Alors, là-dessus, je me suis demandé, mais... Bon, je vous ai expliqué pourquoi Jérémie, pourquoi on l'a jeté dans la citerne, pourquoi ça ne plaisait pas, c'est du défaitisme. Il n'y a rien de pire, en temps de guerre, c'est quelque chose de catastrophique. Il faut soutenir le moral des troupes. Donc, il y a une raison très objective, même si ce n'est pas une bonne raison. D'autant plus que si vous lisez bien le texte, l'ensemble du texte, avant, après, l'ensemble de Jérémie, vous verrez qu'il n'est pas contesté par le fait qu'il est prophète. Personne ne dit « c'est un faux prophète ». Il est admis que Jérémie est un prophète. Seulement voilà, parole de Dieu ou pas parole de Dieu, ça ne plaît pas. On rejette. Alors, je me suis demandé pourquoi Jésus, lui, avait été condamné. Alors, vous allez me dire, attention, Patrick, t'es bien gentil, mais Jésus, on ne l'a pas jeté dans une citerne, on l'a cloué sur une croix. C'est vrai. Mais je dirais que si le mode exécutoire est quelque peu différent, la finalité est la même. Jésus annonce la parole de Dieu, cette parole ne passe pas, et on le condamne. Mais pourquoi exactement? Qu'est-ce qui a coincé dans le discours de Jésus? Qu'est-ce qu'il y a dans la vie, dans les faits, les actes de Jésus? Bon, on ne va surtout pas s'arrêter au terme du faux procès, du simulacre de procès qu'il a eu. On sait très bien que c'est tout des arguments fallacieux. Il a blasphémé. Non, il n'a pas blasphémé. Il a rendu compte, il a dit qu'il allait détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. Enfin, bon, tout ça, on le met de côté. Ce sont de faux arguments. La vérité, c'est que les autorités religieuses étaient furieusement jalouses du prestige, du succès que Jésus avait parmi la foule. Alors, qu'est-ce qui a bien pu coincer avec Jésus? Alors, c'est vrai qu'il a eu des propos, parfois, de nature à s'attirer quelques inimitiés, on dira, hein. Il n'a pas eu de mots assez durs pour qualifier l'attitude des pharisiens, des scribes, des docteurs de la loi, tout ce qui faisait autorité en matière de foi. Race de vipères, sépulcre blanchi, malheur à vous, scribes et pharisiens, ça n'a pas dû lui faire beaucoup d'amis, ce genre de discours, enfin du moins chez les personnes concernées, n'est-ce pas? Et c'est vrai que Jésus supporter énormément de choses, y compris beaucoup de péchés, mais certainement pas l'hypocrisie. Alors ça, c'est quelque chose qui... C'est la première chose contre laquelle il s'est battu, c'est l'hypocrisie. Songez quand même qu'il n'a jamais dit un mot de travers contre l'occupant romain, qui pourtant n'était pas tendre. Hein. L'occupant romain, on croit savoir que comme toute armée d'occupation dans un pays, il se livre à des exactions, toutes sortes de choses... bien plus tard, après le Christ, ils se livreront même à l'abomination, hein, au niveau du temple de Jérusalem. Jésus n'a jamais eu un mot de travers, même au contraire, une fois il a cité en exemple un soldat romain qui, d'après lui, avait une foi exceptionnelle. Bon, donc vous voyez, au niveau discours, c'est vrai qu'il y avait des choses qui coinçaient, mais on se dit, mais pour autant, qu'est-ce que c'est à côté du prestige qu'il avait? La Bible, l'Évangile nous dit que Jésus captivait les foules. Sa parole faisait autorité. Les gens étaient bouche bée quand ils écoutaient Jésus. Et si vous regardez bien, jusqu'à la fin, quelques jours avant la crucifixion, l'entrée à Jérusalem, formidable. Il est acclamé. Il est adoré par la foule. Pourquoi tout d'un coup ce retournement? Voyez, on connaît tout ça, mais de temps en temps, il faut se poser la question de dire, mais dans le fond, qu'est-ce qui a coincé? Pourquoi cette foule s'est retournée d'un seul coup pour, quelques jours après l'avoir acclamé, dire « crucifie-le à mort ». Eh bien, je crois que, dans le fond, tous ces braves gens ont été déçus. C'est toute une histoire de déception. Alors, vous savez, comme la déception peut faire passer un amour démesuré à une haine tout aussi démesurée. Hein. Ça bascule d'un coup, et autant l'amour, l'affection, l'adoration étaient puissantes, autant la haine devient puissante. Oui, je crois que Jésus a déçu. Vous avez un personnage qui symbolise tout à fait cette déception, je crois que c'est Judas. Moi, je me dis que dans le fond, Judas, quand il a été recruté par Jésus dans son équipe de 12, Judas, il était tout aussi sympa que les autres, tout aussi enthousiaste, peut-être même plus. Il avait peut-être plus d'enthousiasme que les autres, dans le sens où il avait une ambition pour Jésus. Mais une ambition que Jésus lui-même n'avait pas. Une ambition, vous voyez, au niveau politique. Comme la plupart des gens dans ce pays qui attendait le Messie, c'était le moment où jamais l'occupant romain était là, ah, vivement le Messie qui va nous débarrasser des Romains. C'était un enjeu formidable, ça. Alors Judas, il s'est dit, ben ça y est, c'est bon. Il voyait le succès grandissant de Jésus, il le voyait déjà lever une armée. C'est vrai qu'à un moment donné, Jésus n'avait que ça à faire pour lever une armée. Hein. Les gens étaient prêts à aller mourir pour lui. Hein. Oui, comme la grande armée est allée se faire massacrer pour Napoléon, pour les beaux yeux de Bonaparte. Il n'avait que ça à faire, lever une armée. Puis, dans la foulée, ben, il serait monté sur le trône d'Israël, sur le trône de David. Puis, par la même occasion, il aurait nommé Judas ministre des Finances, en l'occurrence, puisqu'il paraît qu'il aimait l'argent, quand même. C'était formidable. Quelle ambition! Et puis, au moment où ça y est, tout est cuit, tout est prêt à tomber tout cuit hein, dans l'escarcelle, hein, comme on dit, raté. Jésus, lui, il n'a qu'un seul discours, il faut que j'aille à Jérusalem pour souffrir, être crucifié comme un malpropre. Alors vous imaginez la déception de Judas, bon, et derrière lui, la déception de tout un peuple. Alors autant finir, donc Judas est allé trahir, je ne pense pas que ce soit pour vraiment les 30 pièces d'argent, c'est plus un faux prétexte ça, pour donner une raison à sa trahison, mais une raison facile à défendre. Non, Judas s'est dit, bon, autant finir, et donc il l'a trahi, et on connaît la suite. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça, de Jésus, après avoir lu Jérémie? Eh bien parce que il me semble que nous aussi, nous pouvons, chacun à notre tour, éprouver une certaine déception vis-à-vis de Jésus. Je pense que oui, la nature humaine est toujours la même. Hein, si les gens qui ont côtoyé Jésus, qui ont eu la chance inouïe de le côtoyer en chair et en os, de l'écouter de vive voix, ont été déçus par Jésus, pourquoi nous, 2000 ans après, nous éprouverions pas de temps en temps, soyons quand même un petit peu soft, pourquoi ne n'aurions-nous pas nous aussi des moments de déception? Alors comment peuvent-ils arriver ces moments de déception? Parce qu'évidemment c'est négatif, il faut lutter contre ça. Comment peuvent-ils arriver? Eh bien, certainement, toutes les fois où nous sommes, je veux dire, nous sommes idolâtres vis-à-vis de la personne de Jésus. Vous savez, la foule à Jérusalem qui accueille Jésus, cette foule, on a l'habitude de dire qu'elle est idolâtre. Alors qu'est-ce que ça veut dire être idolâtre? Parce que Jésus n'est pas une idole, Jésus c'est bien celui qu'on doit adorer, servir, aimer. Eh bien ça veut dire, oui, servir, aimer Jésus, l'adorer pour ce qu'il n'est pas. Ou pour ce qu'il n'a jamais voulu être. C'est aimer, servir, adorer Jésus pour ce qu'on a envie qu'il soit. Et alors là, la liste est longue. Nous faisons tous, que nous voulions ou non, des cadres. Voilà, ça c'est le cadre, c'est Jésus. Et il s'agit qu'il rentre dedans. Il ne faut pas qu'il y ait rien qui dépasse. Il doit rentrer dans ce cadre. Et oui. Vous savez comment ça marche avec une idole, hein, on voit ça, les peuplades primitives, ou même les civilisations, antiques ou pas. Les idoles, c'est formidable. On lui apporte des offrandes, on se prosterne devant, on fait tout un tas de charabia, des rites, etc. En échange de quoi, l'idole en question, le dieu ou la déesse en question, envoie la pluie sur les récoltes, nous donne fortune, gloire, amour, beauté, etc. Tout ce qu'on veut. C'est un échange de bons procédés. Eh bien, je pense que nous idolâtrons Jésus toutes les fois où nous sommes un petit peu dans cette posture. Mais attention, hein, c'est pas conscient, hein, c'est tout au fond, là, tout au fond. Nous venons au culte, nous suivons, nous lisons la Bible, nous prions sincèrement, nous cotisons à l'Église. Et puis derrière tout ça, quand nous adressons nos prières à Dieu, nous une demande, quelque chose qui va mal dans notre vie, et une petite voix tout au fond de nous qui dit « Il te le doit bien, ça. Il te le doit bien. » Voilà une idolâtrie vis-à-vis du Seigneur. « Il te le doit bien. Tu es un bon chrétien. Tu pourrais quand même faire un petit effort, penser à toi. » Mais bon, je vous répète, hein, c'est pas conscient. C'est une petite voix derrière. Vous faites comme vous voulez. En voulez-vous un exemple? Eh bien, un exemple concret de ce que nous avons lu dans l'évangile de Luc. Moi, quand je suis tombé sur ce texte, j'ai senti qu'en moi, il y avait un portail là, qui se fermait, donc il faut ouvrir, hein, n'importe comment. Mais là, tout de suite, il est fermé. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que dit Jésus? Vous vous rappelez ce qu'il a dit? Je vous aide un peu, je le rappelle. Bon, je suis venu jeter un feu sur la terre. Parce que là, ça va, on se dit, bon, ça va, c'est le feu du Saint-Esprit, vous savez, bon. Une image, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Ça veut dire, vraiment, je souhaite allumer ce feu, c'est pas un hasard. Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien je suis pressé qu'il soit accompli. Alors, c'est le baptême du sang. Hein. Ce C'est le baptême du sang. Déjà, ça se gâte un petit peu, là. Mais alors, la suite. Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur terre, sur la terre ? Non, vous dis-je, mais la division. Et vas-y, le père contre le fils, la belle-mère contre la belle-fille, etc., etc. 2 contre 3, 3 contre 2. Ben, dites donc, on prend un sacré coup derrière les oreilles quand on s'est fait, vous voyez, une idole de Jésus, le cadre. Jésus, voilà, qu'est-ce que c'est Jésus ? Qui c'est Jésus ? C'est le prince de la paix. On a l'habitude de rappeler ça, notamment au moment de Noël, hein, que Jésus était annoncé depuis fort longtemps par les prophètes, il sera nommé le prince de la paix. Ben, le prince de la paix, regardez, de sa bouche même, hein, c'est pas quelqu'un qui dit de lui, hein, de sa bouche même, je suis venu apporter la division. Bonjour la paix. Et oui, et donc là, conflit, déception. On peut être déçu par ce que dit Jésus. Parce que moi, pour moi, Jésus, c'est, vous voyez, partout où il arrive, c'est peace and love. Hein. Des petites fleurs, des nuages bleus, roses, mais pas gris. Et là, c'est un nuage noir hein, qui l'amène, Jésus. Un nuage noir. Alors, bien sûr, en travaillant, après, on comprend certaines choses. De quelle paix s'agit-il ? D'abord, oui, Jésus est venu apporter la paix. Seulement, les hommes n'en veulent pas, ça, c'est clair. Bon. Et puis, il parle surtout de la paix, c'est-à-dire la réconciliation avec Dieu. Et là, individuellement, n'importe qui, du moment qu'il accepte Jésus dans son cœur, effectivement, reçoit la paix de Jésus-Christ, même s'il est en plein milieu d'un conflit, serait-ce un conflit familial. Comprenez là les choses. Même en plein milieu d'un conflit familial, vous êtes fâché à couteau tiré avec le cousin, avec votre frère, avec vos parents, vos enfants. Et vous pouvez vivre la paix. Mais matériellement, ce qui se voit avec les yeux, vous êtes dans la division. Bon, ça c'était une parenthèse, c'est pas mon propos d'aujourd'hui. Oui, mes frères et sœurs, nous pouvons être très facilement déçus par Jésus si l'Esprit Saint n'éclaire pas notre compréhension, notre discernement des paroles de Jésus. Et puis on a aussi lu dans l'Épître aux Hébreux, là aussi, quelque chose, est-ce que vous vous rendez compte, là aussi, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a lu ? Bon, l'auteur de l'Épître nous invite à lutter contre le péché, hein, avec comme exemple à la fois la nuée des témoins, hein, tous ceux qui nous ont précédés, qui ont lutté contre le péché, parfois au prix de leur vie aussi, et puis surtout, avec les yeux fixés sur Jésus, hein, donc avec comme exemple Jésus. Et il est quand même dit, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Alors, à l'épreuve, j'ai une petite, on va dire un astérisque. Une petite astérisque qui nous renvoie en bas de page et qui dit, le mot peut se traduire aussi par compétition ou même combat. Et ça change tout. Courons avec persévérance le combat qui nous est proposé. Alors là, je me suis dit, mais la foi, c'est un combat. Mais attendez, mais ça rigole pas, les amis. Le petit nuage rose ou bleu, c'est fini, là, définitivement. Là, c'est pas Jésus, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, peut-être Paul ou un autre, qui nous dit, le combat contre un péché, c'est un combat. Et attendez, pour enfoncer le clou, si je puis dire, il rajoute, au verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et alors, sous-entendu, ben, il va falloir y passer. Parce que là, il s'adresse à des gens qui débutent hein, dans la foi en Christ, hein, qui démarrent, hein, qui découvrent. Et il leur dit, attendez, vous n'avez pas encore vu le meilleur, là. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au sang Je pense que là, on peut aussi penser au sang de Jésus-Christ. Hein. C'est-à-dire lutter jusqu'au point, alors je ne sais pas comment formuler la chose, jusqu'au point où Jésus a dû donner son sang. Bon, je vous vois sinistre, morose et triste. Parce que ça fait un sacré choc. On se dit, mais si on prend au pied de la lettre, là, qu'est-ce qui nous attend hein. On est loin de la paix. Bon. Combattre le péché jusqu'au sang. C'est le prix à payer pour ne pas être déçu, alors c'est vraiment paradoxal, oui, pour ne pas être déçu par Jésus. N'oublions pas que si nous sommes déçus par Jésus, alors bien sûr on ne va pas descendre dans les rues de Thiers en criant « Crucifions-le, à mort !» Mais quelque part en nous, il y a un rejet. Il y a un rejet. Ce Jésus-là, c'est pas celui dont j'ai rêvé. Alors nous devenons un peu des Judas, hein. Alors, bon, rejet. Ah non, parce que pour moi, Jésus, c'est... Voilà, c'est... Mais Jésus, c'est celui qui nous est enseigné dans la parole de Dieu. Alors, je ne veux pas faire du catastrophisme, mais bien au contraire, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de la paix, apparemment, Jésus, c'est le contraire. Non, non, mais toujours savoir de quelle paix on parle, de quel amour on parle, de quel combat on parle. Ça demande de travailler la Bible, hein. Vous savez, moi, la foi, ce qu'on appelle la foi du charbonnier, comme ça, qui... Bon, c'est un début, c'est bien. Mais quand on ne travaille pas la parole, qu'on ne la remâche pas, on ne peut pas exercer donc un discernement sur ce qu'il dit. Eh bien, un jour ou l'autre, elle nous tombe sur les oreilles et elle provoque chez nous un rejet. Pourquoi ? Parce que nous sommes déçus. Alors, les amis, mais que cette réflexion soit pour nous un encouragement à toujours creuser la parole, et surtout la parole de Jésus dans l'Évangile. Et nous découvrirons des trésors, parce que tout à l'heure je vous disais, autant quand on a beaucoup aimé, d'un seul coup la déception nous amène à une haine proportionnelle, et bien de la même façon, quand nous découvrons le sens profond des paroles de Jésus, et bien je pense que nous faisons des bons gigantesques en avant dans la foi. Jésus nous fait vraiment faire. Là où d'autres peut-être auraient chuté, où nous aurions chuté, nous aurions trébuché, parce que la parole est dure, elle n'est pas acceptable comme ça en l'état, eh bien tout d'un coup nous découvrons véritablement un trésor. Et ce trésor, nous l'amassons d'abord dans notre cœur, mais aussi dans le ciel, où Jésus nous a réservé une place. Amen.